Importante et grosse conférence de presse ce matin à Montréal. Tout le monde y était, à peu près tout ce qu'il y a de responsable en sécurité citoyenne était là. Corps de police, ministre délégué Montréal, ministre de la Sécurité publique, mairesse de Montréal, mairesse de l'arrondissement, chef de police de la Sûreté du Québec et de la police de Montréal. Parce que tout ce déploiement est pour, évidemment, rassurer la population qu'on s'occupe de cette situation dramatique que l'on connaît depuis bien des moments, c'est-à-dire l'utilisation d'armes à feu, comme ça, en plein jour. Annie Guillemette, vous êtes journaliste à Cogeco, bien sûr, mais vous êtes à cette conférence de presse. Comment ça s'est déroulé?
Ben écoutez, Jean-Luc, vous l'avez dit, hein, tout le gratin de la sécurité publique du Québec est ici, sur le parterre de l'Hôtel de Ville à Montréal, parce que on annonçait une frappe uniforme, une frappe commune contre la lutte au trafic d'armes d'un côté, mais aussi contre les crimes qui y sont liés. Donc, bien sûr, le lien facile à faire avec ce qui s'est passé il y a deux jours du côté de Rivière-des-Prairies. Vous savez qu'à Montréal, on a déjà une équipe qui est en train de se bâtir là au fil des mois. Elle sera complète au début de l'année prochaine. Ça s'appelle ELTA, donc une équipe de lutte contre le trafic des armes. Et c'est cette équipe-là qu'on va d'une part pérenniser, donc on va la rendre pérenne, elle va durer dans le temps et on va surtout l'élargir. Donc la Sûreté du Québec, on savait qu'elle collaborait pour l'enquête du triple meurtre, mais là, elle va devenir partie intégrante de cette équipe-là. On nous dit que les corps de police vont servir d'antenne partout au Québec pour le renseignement criminel et qu'il y a même des discussions qui sont en cours avec la GRC pour aussi obtenir de l'aide du côté du corps de police fédéral. Donc là, on va mettre en commun des enquêteurs, des hommes, des cerveaux d'une part, mais aussi des moyens technologiques. À Montréal, on n'en a pas tant que ça. À la Sûreté du Québec, ils sont très forts en cyber-enquête, en enquête aussi technologique. Mm-hmm. Donc, on va mettre tout ça ensemble pour faire une frappe commune. On nous dit que c'est de cette façon-là que ça marche. On se souviendra, là, il y a plusieurs années, dans la guerre des motards, c'est de cette façon-là qu'on avait réussi à répondre de façon adéquate avec Carcajou. Vous allez en parler tantôt. Donc, c'est une frappe similaire qu'on veut offrir aux criminels. On nous promet, par contre, une équipe légère qui va pas s'embourber dans la bureaucratie. C'est une promesse de la ministre Geneviève Guilbeault. Et pour ça, ben, on va faire une équipe d'enquêteurs, mais aussi une équipe de terrain, des gens qui vont aller dans le sud-est de Montréal, qui est de plus en plus chaud, vieux Montréal y compris, et dans le nord-est aussi, donc Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, où les crimes qui impliquent des armes sont en recrudescence constante depuis les derniers mois. Donc, les gens qui étaient là aujourd'hui en ont profité pour réitérer leur demande à Justin Trudeau. Vous savez, la loi qui est présentée, la récente loi pour le contrôle des armes, ben, elle ne fait pas l'affaire, entre autres, de Valérie Plante, et elle martèle son message à toutes les fois qu'elle en a l'occasion. Il faut renforcer cette loi-là parce qu'une ville comme Montréal ne peut pas contrôler le trafic des armes si partout autour, les armes se promènent comme des bonbons. Là. Oui. Donc, il faut vraiment élargir tout ça.
Mais on a senti cependant, ce message-là pour dire les moyens, mais on a senti cette présence massive d'à peu près toutes les autorités pour rassurer la population, dans le fond, parce que, et Mme Bourgeois en a fait mention, il y a des gens qui veulent quitter les quartiers chauds. Alors là, on veut pas que ça commence à mettre un mouvement d'exode ou que ça nuise à la réputation sécuritaire de Montréal.
Effectivement, la ministre Guilbeault aussi a insisté sur ça, que la Ville de Montréal, que le Québec en général, sont des endroits sécuritaires pour les citoyens et que les gens de la sécurité publique, je dirais en général, sont là pour s'occuper des crimes. Sauf qu'effectivement, lorsqu'il y a une échange de coups de feu ou simplement attentat en plein cœur d'un quartier résidentiel, comme ça s'est passé lundi, ben ça augmente le sentiment d'insécurité vis-à-vis la population. Mm-hmm. Et c'est beaucoup ça qu'on voulait faire aujourd'hui, faire de la rassurance générale là, pour les gens de Montréal.
Merci beaucoup, Annie Guillemette, journaliste chez Cogeco Nouvelles, de nous avoir rapporté ce qui se passait à cette importante conférence de presse qui se tenait dehors, je pense, devant l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est bien ça?
Effectivement, parfait. D'où le son de bruit de centre-ville.
Mais c'est Montréal.
Exactement.
On va retrouver Paul Laplante, qui est policier à la retraite, mais qui est un ancien responsable de l'escouade Carcajou pour l'Est du Québec. Paul Laplante, bonjour.
Bonjour, M. Mongeur.
M. Laplante, À une certaine époque, je dis peut-être par le passé, mais il y avait comme de la concurrence entre les corps de police, les bleus, les verts, les bleus étant le municipal, les verts étant la SQ. Ça semble s'être estompé ou être disparu, ma foi.
C'est disparu, je dirais possiblement non. Il y aurait toujours, je pense, des allégeances qui vont demeurer. Par contre, depuis plusieurs années, on a vu plusieurs équipes travailler en partenariat. Okay. Et on sait que c'est facile à comprendre, c'est le résultat. Et la seule façon d'avoir un résultat dans la police, c'est de travailler en partenariat.
Quand on regarde la création d'organismes ou de comités d'enquête conjoints, là, Carcajou en était un, bien sûr, ça a eu son effet et ses résultats. Est-ce qu'il y a une méthode de travail qui change? Cette collaboration-là doit être dirigée par quelqu'un. C'est qui mène? C'est choisi par les pairs? C'est-tu ceux qui créent cette association-là qui dit, bon, ben là, ça va être la ville de Montréal parce que ça se passe sur le territoire de Montréal?
Ben là, on peut penser, si on parle dans le contemporain présentement, penser fort probable que le chef de bureau ou le dirigeant de ce bureau-là d'enquête va être un gars de la CUM, ce qui est très normal, je pense, parce que les dossiers de violence se passent dans la ville de Montréal.
Okay.
Donc, c'est une scène logique. Ça va être un dirigeant de Montréal, qui je ne sais pas. Ils vont certainement trouver quelqu'un de... Il est probablement trouvé à l'heure qu'on se parle.
Ah, oui.
Certainement quelqu'un qui a d'expérience et compétent, en principe.
Qu'est-ce que la SQ a que Montréal n'a pas? C'est ça que j'essaie de comprendre, parce qu'on a dit qu'il y a des expertises sur les armes à feu qui sont plus importantes du côté de la SQ pour des enquêtes spéciales ou je ne sais quoi. J'ai pas compris ce langage-là.
Ben, c'est probablement au niveau des enquêtes via les enquêtes cyber que j'appelle le dark web, la technique. Exemple, si on prend, je ne vois pas la ville de Montréal, là, je ne me souviens pas présentement combien qu'on ligne d'écoute, exemple. On va dire un chiffre. On va dire qu'il y aurait 100 lignes d'écoute. Ben, pas seulement qu'à la sûreté, il y en a 350. Donc, il y a des supports techniques.
Okay.
Pas que les gars ou les filles de la sûreté sont plus brillants que les filles ou les gars de la police de Montréal. Simplement, lorsque tu as des moyens techniques plus sophistiqués et en plus grand nombre, ben, on sait que les enquêtes, la base de n'importe quelle enquête, c'est le renseignement.
Vous, là, pour avoir été un des dirigeants et responsable de Carcajou,
oui.
Est-ce que le bilan de Carcajou, c'est un succès? Ça dit, on a pris la bonne décision, on a bien travaillé, puis on est arrivé à des gros résultats.
Ben, ce que vous me demandez, c'est pas facile à répondre, mais si on regarde le bulletin final,
oui.
Assurément, c'était Carcajou, c'était un succès. Autant les condamnations que d'arrêter la guerre ou que ce que vous voulez, c'est un succès. Et moi, je vais tout vous dire, c'est bien personnel, bien entendu. La seule façon de faire de la police, c'est de la faire en partenariat et non en silo. Mais par contre, ce qui arrive, malheureusement, la police souvent réagit. Elle réagit, comme là, on le voit. Là.
Ouais, ouais.
Évidemment que c'était pour arriver là, quand on a des fusillades à répétition. Qu'il va y avoir un ou deux ou des innocents qui n'ont rien à voir là-dedans, qui vont malheureusement passer à trépas. Et puis, ce qui arrive, ben, on vient de le voir, une conférence de presse, c'est évident. Et là, il n'y a pas de panique, sauf qu'on réagit.
Ça, c'est un problème. C'est bien de réagir et de réagir rapidement, mais ça fait 20 fois qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal avec des armes à feu. Est-ce que, si on avait réagi plus tôt, je ne veux pas refaire la partie une fois qu'elle est jouée, là, c'est pas ça du tout. Là.
Mais
réagir plus tôt et rapidement, est-ce que le message ne fait pas en sorte que ça peut empêcher des groupes mal intentionnés ou si on se fiche carrément de la répression?
Non, ces gens-là ne se fichent pas carrément de la répression. C'est des petits criminels de peu d'envergure qui, malheureusement, sont armés. Oui, la police, elle travaille, sauf que, maintenant, et je vais vous donner un exemple, il y a des gens là, dans la région de Montréal qui aimeraient que les policiers soient désarmés. Hein, ça a passé sur quelques semaines. Bon,
oui.
Et là, on passe d'un extrême à l'autre. Là. On parle de criminels qui seraient armés puis de policiers qui seraient pas armés. Je ne veux pas partir un débat là-dessus. Sauf que ça démontre un peu ce qui se passe dans la société. Pas juste à Montréal, ailleurs aussi. Et là, lorsqu'on parle d'équipe mixte, ben là, il va y avoir un joueur important qui, je pense, va se joindre à cette équipe-là, qui va être la GRC.
Ça, ils vont arriver, là. Ça va être les bleus, les verts et les rouges.
Ça, c'est une question politique présentement là, qu'on se parle. Là. Il y a certainement des négociations qui sont en cours là, depuis plusieurs heures. Et là, ben là, tu as toujours au fédéral provincial. Et là, tu as l'autre côté, c'est plate d'en parler, mais on parle qui paye, ça coûte combien? Est-ce qu'on met 50 hommes, ça ou 30 femmes? Est-ce qu'on met ci, est-ce qu'on met ça? Et c'est là, là toute la dynamique de tout ça. Qui va payer pour ça?
L'intention et les ressources, bien sûr, mais aussi l'argent qui doit suivre et comment le partage va se faire.
Ben oui, parce que là, il ne faut pas oublier qu'ils ont annoncé que c'était une équipe permanente.
Oui, c'est ça, à suivre.
Permanente, c'est à suivre. Les coûts pour avec ça et les résultats. Et c'est dommage de parler de coûts et de résultats alors qu'on a des gens qui sont décédés.
Qui meurent, puis c'est ça, puis que ça continue à se tirer dans la ville.
Moi, je pense que ça va aussi se régler avec l'aide du crime organisé. Et ce que je vais dire là va faire sursauter des gens, c'est que c'est pas fin là, les gangs de rue. Ils sont plus ou moins organisés, mais par contre, selon moi, ils ont quand même des. Il y a des gens qui. Ils dépendent de différents crimes.
Je comprends. Ce que vous me dites, c'est que ce comportement qui n'est pas dans l'ordre des choses, dans la science du crime, va faire en sorte que, hey, les gars, vous amenez de la chaleur sur nous autres, on n'a pas besoin de ça.
Ben, c'est ce qui va se passer. Et je pense que déjà, moi, ma perception était que, il y a 3 ou 4 mois, que ces choses-là diminueraient. Mais pour des raisons X, on regarde l'histoire, il y a un dirigeant qui a été
abattu, là, ouais.
D'assurer une réserve indienne, etc., etc. Ben, là, il va se passer des choses.
Paul Laplante, merci beaucoup de vos lumières en cette matière. Policier à la retraite, bien sûr, mais responsable de l'escouade Carcajou pour l'Est du Québec. Merci, monsieur.
Bonne fin de journée.
Merci, au revoir. On s'arrête pour une pause.